RCF.
Chaque évangéliste a sa manière propre d'introduire et de conclure le récit de la vie de Jésus-Christ. Une touche personnelle qui permet d'élargir la vue, d'amener de la diversité et de choisir un angle. Ce dimanche, la liturgie nous propose d'écouter la finale de l'évangile de Matthieu. Il s'agit de l'envoi en mission des disciples, réunis pour l'occasion en Galilée, après la résurrection. Pour commenter cet épisode, je reçois la bibliste Marie-Hène Mezzaroba. Nous commençons par écouter la parole chez Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20.
Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Marie-Hène Mezzaroba, parlons du contexte de l'évangile que nous avons lu. Nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu, donc c'est juste après la résurrection.
Juste après la résurrection, on voit les deux Marie qui vont au tombeau. L'ange leur dit que Jésus les attend en Galilée, que c'est là qu'ils le verront. Et après avoir vu l'ange, elles rencontrent Jésus lui-même, qui leur donne la même consigne, qui leur dit « Allez en Galilée ». Entre les deux, il y a cet épisode du vol du cadavre.
Alors, est-ce qu'on peut redire ce que c'est exactement ?
Alors, le cadavre ayant disparu, les soldats viennent le dire au grand prêtre, qui les monnaie pour dire que les disciples sont venus voler le corps pendant la nuit, et que eux, ils étaient endormis. Donc, qui vont couvrir leur faute, parce qu'ils n'auraient pas dû dormir, ils vont couvrir leur faute, mais aller répandre partout que...
En fait, on a volé le corps.
Et cette parole s'est répandue auprès des Juifs jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le verset qui précède immédiatement notre texte.
Reparcourons avec vous cet évangile. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Matthieu évoque les 11 disciples, donc ils sont tous là, sauf Judas.
C'est ça.
Tous ceux qui s'étaient dispersés, parce qu'on sait qu'au moment de la Passion, ces disciples, ils n'étaient plus ensemble.
Oui, tout à fait, ils ont tous eu peur, hein. Ils se sont tous enfuis.
Carapatés.
Chacun à sa façon. Alors, ce qui m'intéresse là dans ces 11 disciples, c'est que le grec dit « oïdé », un peu comme si c'était « mais les 11 disciples ». C'est-à-dire, par rapport à cette histoire de vol de cadavres et de rumeurs qui se répandent chez les Juifs, eux ont cru les femmes. Contrairement d'ailleurs à la finale de Marc, où il est dit qu'ils ne les crurent pas.
Et là, ils les ont crus.
Ils les ont crus et du coup, ils font ce qu'elles ont dit. Parce qu'eux, ils n'ont eu aucune révélation directe de Jésus. C'est les femmes qui viennent leur dire que Jésus les attend en Galilée. Et ils vont là où Jésus leur avait ordonné. Mais Jésus leur a rien ordonné à eux directement. C'est passé par les femmes.
Donc les femmes ont été les transmettrices.
Oui, les témoins. Hein. Les témoins, elles ont transmis et ils les ont crus, puisqu'ils y vont.
Alors, la Galilée, justement, cette terre dont sont originaires les disciples, et cette terre où tout avait commencé, puisque Jésus a suscité l'élan des premiers disciples en Galilée.
Mais oui, lui-même, il est galiléen, et c'est là où il les a appelés, c'est là qu'a débuté la mission de Jésus, en Galilée, c'est-à-dire quand même à distance de Jérusalem. Alors, c'est le moment de l'origine, c'est-à-dire il vient
les convoquer au moment de l'origine.
Au lieu de leur appel, au lieu de l'appel premier qui les a mis en route. Comme si l'origine et la finalité, ça se rejoint complètement.
Donc on peut dire qu'il y a une continuité entre aussi le Jésus terrestre et puis le Christ ressuscité. C'est une continuation.
Oui, ben c'est une suite. Ben vous parliez du trouble des disciples qui étaient tous dispersés. Ben ils sont rassemblés au lieu de leur premier appel, au lieu de leur premier
de
leur vocation. Et cette vocation va être ressuscité. Voilà, pour aller envoyer, puisque c'est ça qu'il va leur proposer. Hein. Donc c'est lui qui vont poursuivre sa mission, en fait.
C'est eux.
Hein, donc.
Alors, ils partent à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Donc, dans le message de l'ange, il n'était pas question de cette montagne, mais juste de la Galilée. Donc, je suppose que ce détail a une valeur symbolique.
Oui. Et puis, la montagne, c'est quand même, je crois, l'endroit où on rencontre Dieu. Que ce soit dans le Premier Testament ou dans le Second, enfin, c'est l'endroit par essence. Quelquefois, c'est aussi le désert, mais c'est beaucoup la montagne où on rencontre Dieu. On ne nous dit pas quelle montagne, la montagne.
D'ailleurs, c'est curieux parce qu'il n'y a pas vraiment de montagne en Galilée.
C'est vrai.
C'est assez plat, peut-être quelques collines.
Oui.
Donc, cette montagne, c'est au fond symbole de la rencontre avec le tout autre, avec celui qui nous adresse la parole. C'est là où les paroles ont été adressées à Moïse. Ils vont recevoir là un nouveau, peut-être une nouvelle feuille de route.
Oui, complètement, complètement.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Marie-Anne Mezzaroba, quand les disciples voient Jésus, Matthieu nous dit qu'ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Alors ça, c'est la traduction liturgique. La traduction aussi au plus près du grec. Ils le voient, ils se prosternent, mais quelques-uns hésitent. Qu'est-ce que vous diriez sur cette notification? Tout le monde n'est pas unanime? La résurrection ne va pas de soi?
D'un certain côté, il y a une reconnaissance, puisqu'ils se prosternent. Donc, ils le reconnaissent, pas seulement l'homme Jésus, mais sa divinité. Parce qu'avec Jésus, ils ne se prosternaient pas devant Jésus, les disciples. Enfin, donc, ils reconnaissent quelque chose de sa divinité.
Et qui les dépasse.
Ça les dépasse.
Et on retrouve cette idée de prosternation quand il y a des grands signes, par exemple dans la barque, quand ils calment la tempête. Ils se prosternent à ce moment-là. Donc, c'est un signe de crainte.
C'est une théophanie. C'est-à-dire, c'est un contact avec Dieu. Et dans la barque, ils ont peur. Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». Et là, ils n'ont pas peur, mais ils ont des doutes. C'est-à-dire, ils ne sont pas sûrs, je crois. Ils ne sont pas complètement sûrs de ce qu'ils voient. Est-ce que c'est possible de voir le ressuscité? De le voir dans sa gloire, d'une certaine façon. Hein, les femmes l'ont vu dans cette apparence corporelle. Mais là, est-ce que c'est possible? Et nous-mêmes, quel accès on a au ressuscité? On n'a pas les mots, on n'a pas de savoir. En tout cas, Jésus ne fait pas cas de ses doutes. Et je trouve que ça renvoie aussi à nous. On n'est pas des croyants qui savent de façon indéfectible. On a aussi des interrogations, des moments où on se dit « Mais est-ce que la représentation que j'ai ou le Dieu dans lequel je crois, est-ce que c'est vrai et c'est faux ?» Certains moments, on se dit « Mais c'est vrai et c'est faux. » C'est-à-dire, on peut pas cerner Dieu. Donc,
on ne peut pas le mettre dans une définition bien ficelée.
Ben oui.
Et le fait que ce soit les disciples, donc les premiers qui vivent cette réalité d'être à la fois émerveillés et en même temps hésitants, peut nous rejoindre.
Mais ça nous rejoint complètement et ça nous rejoint dans une espèce de non-certitude qui nous rassurerait bien. Et ça n'est pas le doute du refus, c'est-à-dire de « je ne veux pas ». Je ne crois pas.
C'est autre chose.
C'est autre chose. C'est le fait que c'est trop grand.
Jésus s'approche, nous dit Marc, et il leur parle. Il parle aux onze. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Qu'est-ce que vous diriez là de cette attitude de Jésus, finalement, qui s'approche, on l'a vu souvent dans sa vie terrestre, se rapprocher, se faire proche de l'homme. Comme si peut-être il voulait rompre cette espèce de fossé lié à la grandeur, à l'éblouissement, qu'il voulait se rapprocher.
Oui, je crois que vous avez raison. Dans cette théophanie, je dirais, Jésus redevient Jésus, j'allais dire, dans le sens, c'est le Dieu tout autre s'est approché des hommes et il a été l'un d'entre eux. Et cette proximité qui n'est pas une fusion et qui n'est pas non plus, Jésus, c'est pas leur pote. Jésus est aussi Dieu.
Enfin, le tout autre.
Et le tout autre et en même temps, tout pouvoir me fut donné, c'est-à-dire lui aussi, il est en relation avec un autre, avec le Père. C'est pas un pouvoir qui est son pouvoir à lui, parce que
il dit pas je vous donne mon pouvoir.
Oui.
Tout pouvoir m'a été donné, donc il y a un donateur qui dépasse même Jésus.
Voilà.
Ouais, et donc il se reçoit du Père et il transmet ce lien de la filiation aux autres.
C'est ça, exactement. Ce qu'il a reçu. Il le donne et il envoie ces personnes en mission. Il instaure cette fraternité, c'est-à-dire il nous fait fils et il nous fait frères. Et il instaure cette fraternité qui fait qu'ils vont avoir d'une certaine façon son pouvoir.
Alors justement, le mot pouvoir, comment l'interpréter ? C'est parfois traduit par autorité. C'est quoi le pouvoir en régime évangélique ?
Je crois que, alors oui, c'est exousia, c'est une forme de puissance. Et effectivement, ce terme-là est utilisé quand, par exemple, quand on dit que Jésus prêche avec autorité, qu'il parle avec autorité et pas comme les scribes.
Oui, à la synagogue notamment.
À la synagogue, mais aussi quand il chasse les démons. C'est-à-dire, il a une forme de puissance qui est une puissance qu'il reçoit. Lui, il ne cesse de dire qu'il la reçoit. Qu'elle n'émane pas de lui tout seul. Cette puissance, elle est efficiente. C'est ça qui fait qu'il a guéri et c'est ça qui fait qu'il parle.
Hein. Oui, c'est souvent dans la parole d'ailleurs que
oui.
Ça s'exerce.
Mais oui, complètement, complètement.
Une puissance de la parole. On peut dire aussi que déjà au chapitre 10 chez Matthieu, Jésus avait envoyé les 12 en mission en leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les malades. Donc, il y a une continuité entre la vie terrestre de Jésus et puis les démarrages de la mission, les démarrages de l'Église, en fait.
Mais complètement, il les envoie faire ce que lui faisait. C'est quand même une conscience qu'il faudrait qu'on ait tout le temps. C'est-à-dire, est-ce que nous, on fait vraiment, en tant que chrétiens, est-ce qu'on fait vraiment le bien que Jésus faisait ? Cette puissance de pardonner, cette puissance de réintégrer, cette puissance de libérer par la parole et aussi quelquefois par des compétences.
Marie-Hélène Mezzaroba, nous continuons à regarder avec vous et à commenter l'évangile de ce dimanche. C'est chez Matthieu, chapitre 28. Versets 16 à 20. Jésus vient donc de dire que tout pouvoir a été donné aux disciples, son pouvoir, le pouvoir du Père. Et puis Matthieu continue, il fait parler Jésus. « Allez donc, faites disciples toutes les nations, baptisez-les dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » J'ai essayé d'être au plus près du grec dans ce que j'ai dit. C'est pas forcément la traduction liturgique qui, elle, dit « Allez, faites des disciples ». Ce n'est pas tout à fait la même chose de dire « Faites disciples toutes les nations », de dire « Faites des disciples ».
Oui, oui.
« Faites disciples les nations ».
Les nations.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Moi, je crois qu'elles sont invitées. Elles sont héritières comme Israël de la promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'au départ, il y a Israël qui bénéficie d'une bénédiction particulière. Mais c'est pour que toutes les nations soient bénies. Ce salut à l'œuvre, qui est, cette bénédiction qui est donnée depuis le commencement, elle doit atteindre les extrémités de la terre, c'est-à-dire toutes les nations doivent être converties, toute l'humanité. Alors il ne s'agit pas de faire des petits gâteaux, quoi. C'est pas, enfin, de pouvoir compter le nombre d'adhérents au parti. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit que ce convertissent l'esprit d'une nation. Eux sont là pour annoncer
l'universalité du message.
L'universalité, et pour permettre aux gens, faites disciples, ça veut dire... Donc il s'agit de permettre que tous ceux qui le veulent puissent adhérer et que ça se propage.
En dehors des limites d'Israël.
En dehors des limites d'Israël et en dehors des limites d'une religion. Et c'est un esprit qui va se propager.
Alors justement, Jésus leur dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pourquoi le baptême est-il mis en valeur ici par Matthieu ? Ça fait référence aux pratiques des premières communautés ?
C'est la question que je me suis posée, parce que c'est la seule occurrence de cette formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais est-ce que, du coup, est-ce que ça viendrait de la pratique liturgique des premières communautés ? Et puis, bon, il y a quand même cette formule trinitaire. On n'est pas à l'époque où on parle de la Trinité, hein, je veux dire.
Les conciles arrivent plus tard.
Les conciles, c'est après. Donc, on a les premières formalisations, je dirais, de ce qui va donner après la Trinité, la relation du Père, du Fils et de l'Esprit. Et le fait que le baptême, à la fois le baptême d'eau, de la conversion, c'est-à-dire de dire... je ne peux pas vivre par moi-même, mon esprit à moi ramène tout à moi. Donc, se convertir et recevoir l'esprit. Donc, toutes les nations sont invitées à recevoir ça. Ben, c'est comme un père qui dit à son fils, tu es mon fils. Il est son fils. Après, il peut vouloir ou pas vouloir, je ne veux pas de ce père-là. Mais les nations sont invitées et il n'y a pas d'exclus.
Marie-Reine Mezzaroba, lisons la fin de l'évangile. Jésus ressuscité s'adresse aux disciples. Apprenez-leur, donc, à toutes ces nations, à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Apprendre, c'est quelque chose de l'ordre d'un chemin, d'un apprentissage. Et puis alors, le commandement, c'est le commandement de l'amour.
Mais ça reste très mystérieux pour moi, je dois dire. D'abord, il est question donc d'enseigner, faire entrer les gens dans ce que Jésus a dit, ce que vont faire les disciples quand ils vont prêcher, les évangélistes quand ils vont écrire, et nous, quand nous lisons les Écritures, les lisons avec les autres, et où on va chercher à comprendre ce qu'il nous commande.
Quand il part du commandement, le commandement, on sait que... jusqu'où ça va mener Jésus, c'est-à-dire l'amour qui va jusqu'au bout, et donc un amour dont on ne veut pas entendre parler, finalement.
Oui, oui, oui.
Donc ce commandement, c'est très compliqué d'annoncer ça, finalement.
Ben, c'est leur apprendre à vivre de cette façon, c'est-à-dire à vivre à sa suite, de fait. Hein. Et vivre à sa suite, ça n'est pas brûler les étapes. Enfin, c'est vrai que c'est un dada un peu chez moi de redouter une inflation imaginaire de on va suivre Jésus jusqu'à la croix, on va faire des actes héroïques. Enfin, non, c'est du pas à pas et se laisser conduire. Enfin, c'est se laisser conduire par lui, avec la révélation justement qu'on n'aime pas, avec la révélation de notre péché, mais se laisser acheminer petit à petit. Du coup, garder les commandements, c'est pas la manière pharisienne. Nous, on a les commandements et les autres les ont pas. C'est autre chose.
Marie-Reine Mezzaroba, lisons les derniers mots de l'évangile de Matthieu, parce que c'est très fort ce qui est dit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela veut dire dans la bouche de Jésus, ce « je suis avec vous » ?
C'est vraiment une promesse extraordinaire, je vous avais raison. C'est-à-dire, vous pouvez vous appuyer sur moi tous les jours. Je suis avec vous, je ne vous laisse pas. Alors, d'un côté, vraiment, ce texte signifie bien que Jésus s'en va. C'est-à-dire, même si, ce n'est pas le récit de l'ascension comme il sera dans les actes, ça signifie quand même que c'en est fini de la cohabitation avec Jésus sur les chemins, ça en est fini de voir Jésus, de pouvoir le toucher, de pouvoir
parler avec lui,
voilà, ça en est fini.
Il y a vraiment un avant et un après.
Ah oui, il est mort comme tous les morts. C'est vraiment ça que j'aurais envie de dire, c'est-à-dire quand on perd quelqu'un, il est vraiment mort et Jésus est vraiment mort. C'est-à-dire il est vraiment parti. Comme quand on est en deuil, on rentre chez soi et qu'on voudrait demander quelque chose à celui qui est mort, eh ben il n'est pas là.
Donc, vraie séparation et en même temps...
Vraie assurance de « je suis avec vous » et du coup, « je suis en vous ». Alors, c'est là qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit, quoi. Je crois qu'il y a un autre évangile qui dit « je ne vous laisserai pas orphelin ». Ben, vous pouvez vous appuyer sur le fait que je vais vous inspirer, je vais vous encourager, je serai avec vous dans vos efforts, dans vos tâtonnements, dans vos détresses aussi, et dans vos réussites. Hein. Enfin, je serai là, c'est moi qui serai à l'œuvre.
C'est-à-dire que dans l'ordinaire de votre vie, je serai là.
Et puis dans tous ces moments de petite mort, où on est déstabilisé, où on ne sait plus où on en est, il y a ce réconfort et ce fait d'être remis debout et de pouvoir redémarrer, quoi.
Enfin, une bonne nouvelle. Béatrice Soltner.
Marie-Reine Mezzaroba, en quoi ce texte, cette parole de Jésus ressuscité adressée à ses disciples nous rejoint aujourd'hui? S'il y avait une fine pointe à retenir, ce serait quoi exactement?
Je crois que la fine pointe, c'est vraiment ce « je suis avec vous ». Alors, c'est pas du tout « got me toons hein », c'est-à-dire « Dieu est avec nous et nous, on est les plus forts ». C'est vraiment... Vous n'agirez pas seul, vous ne vivez pas tout seul, je ne suis plus là physiquement, donc c'est vous qui allez prendre des décisions, qui allez vous risquer, mais vous le faites pas sans moi, vous le faites avec moi, et vous pouvez compter sur moi. Que ça soit dans nos entreprises, comme dans nos moments de découragement, de se dire, mais il a permis que telle ou telle chose se réalise et je m'émerveille, mais c'était pas moi tout seul. Et par ailleurs, oh là, je suis complètement déconfite, ben, il est avec moi pour me consoler, pour me réparer, pour me pardonner et me remettre debout.
Et alors il dit ça en plus en Galilée, donc dans la terre ordinaire de ces hommes hein, qui oui. l'avaient suivi. Il dit pas ça dans le temple de Jérusalem, lieu par excellence de la religion. Qu'est-ce que ça nous dit ça justement, cette présence continuelle dans la terre ordinaire?
C'est d'abord cette sorte de lien privilégié qui ne fait que s'accroître. Je veux dire, dans l'amour, quand on a un conjoint, si on est dans l'amour, on va s'aimer de plus en plus. On va pas se lasser, c'est le contraire. Enfin,
pourtant, beaucoup de gens se lassent.
Voilà, parce que peut-être c'est une relation imaginaire, c'est-à-dire une relation avec quelqu'un, et puis finalement, il n'est pas comme je croyais. Mais dans une reconnaissance, il y a au contraire une révélation permanente du mystère de l'autre. Et du coup, Jésus, ils l'ont connu, mais ils ont encore besoin de le connaître. Ils ont encore besoin d'avancer dans ce mystère de qui était Jésus, qui il est, qu'est-ce qu'il leur donne, qu'est-ce qu'il attend d'eux. Ils n'ont pas les solutions, quoi. Et ça se joue dans le plus quotidien. Ça se joue pas en extase dans les temples, ça se joue dans le plus banal de la vie.
Et pour reprendre cette expression, ça ne se joue pas en extase dans les églises.
Ben non.
Ça peut, mais pas que.
Ben oui.
C'est dans la vie ordinaire.
Ben oui, c'est-à-dire que les églises, ça peut être le moment du rassemblement d'une communauté, c'est très fort. Enfin, je veux dire, c'est un moment de
communion.
De communion, puis de se retrouver tous disciples du même Christ. Mais après, la réalité de l'observation des commandements, elle va se jouer au quotidien, mais le plus stupide de notre vie, le plus infime.
Dans les détails.
Dans les détails. Et c'est pas l'idée d'une autosurveillance permanente non plus. Hein. Il s'agit pas de se dire je dois me surveiller pour être conforme. C'est justement plutôt de pouvoir relire de quoi ont été faites nos journées, quels ont été les moments où, qui sont des raisons de se réjouir, et quels ont été les moments où on a pu humilier quelqu'un, où on a pu, on n'a pas tous les pouvoirs de tuer, d'envoyer quelqu'un à la mort avec une, mais on a le pouvoir de dire une saloperie qui blesse et qui tue. Donc, on espère que petit à petit, dans ce compagnonnage avec lui, ce compagnonnage quotidien, nos cœurs vont devenir de plus en plus proches de lui, de son amour à lui.
Une dernière chose, quand on lit ce texte, on peut se sentir gêné, enfin certains pourront se sentir gênés, parce qu'à certains moments de l'histoire, l'objectif c'était surtout de baptiser un maximum de personnes, parfois en imposant une religion, parfois en s'opposant à une culture donnée pour imposer une religion. Comment entendre cette parole « Faites disciples toutes les nations » en évitant cet écueil? Qu'est-ce qui peut nous permettre de l'éviter?
Oui, cette attitude impérialiste. Et je me dis, on a même des fois, enfin moi je l'ai eu avec des personnes que j'ai voulu convaincre de ci ou de ça, pas forcément dans l'ordre de la foi, mais où j'étais convaincue que ce qu'elles devaient faire, c'était ça. Et ça, c'est complètement faux. Je crois que faire disciple, ça n'est pas se dire on a trouvé le Christ, il faut que tout le monde soit baptisé parce que sinon ça va pas. C'est vraiment de faire résonner ce message et d'en vivre, d'en être témoin par nos paroles et par nos actes autant qu'on peut. Et puis de laisser l'esprit faire son boulot, quoi. Je veux dire, laisser les personnes devenir disciples en liberté, c'est-à-dire ne pas avoir peur, en revanche, de proposer, de parler, de vivre à partir de notre foi, à partir de cette relation, mais pas dans une attitude de combat ou de conquérance, parce que Jésus n'est pas un conquérant. Il n'est pas allé convertir tout le monde, et depuis le début, Dieu il a respecté le péché d'Adam. Adam veut pas de lui, bon bah d'accord.
Mais c'est pas parce que il ne veut pas de lui qu'il l'abandonne, parce qu'on voit
c'est ça.
Toute l'histoire du peuple hébreu, c'est d'être à ses côtés,
voilà,
fidèlement.
Hein, c'est tout à fait ça. Il ne l'abandonne pas, jamais, mais en même temps, il ne le convertit pas de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a cette intimité, je crois, du « je suis avec vous » qui fait qu'on se convertit, mais un petit peu tous les jours. Hein, c'est tous les jours de voir ce qui est dans l'ordre de l'esprit de Jésus et puis ce qui n'est pas. Hein, et il est avec nous sur ce chemin depuis le début, quoi. Mais voilà, il fait pas de nous des robots qui vont avancer tout seuls. Et l'Église n'est surtout pas une armée qui doit convaincre. La question, c'est plutôt de la propagation de l'esprit. C'est-à-dire de reconnaître aussi dans d'autres cultures ou dans d'autres lieux que l'esprit est aussi déjà à l'œuvre. Ce qui va arriver d'ailleurs aux communautés chrétiennes, les premiers disciples, ils vont se rendre compte que les païens reçoivent des choses, entendent, et qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être le cas. C'est intéressant parce que les païens ont quelque chose du même esprit et que c'est à cet endroit-là, à l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, il existe en tout homme. C'est à cet endroit-là qu'on rencontre quelqu'un. Et pas « moi je t'apporte la vérité ». L'autre est équipé pour entendre la vérité. Il faut juste, dialoguer et vivre ensemble.
Merci beaucoup Marie-Hélène Mezzaroba. Je renvoie nos auditeurs à cette page d'évangile que nous avons lue aujourd'hui. C'est chez Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20.